Vous êtes bien sur France Inter, il est 9h12, c'est samedi, c'est économie et on n'arrête pas l'écho. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Marion Lourd, bonne journée à vous, bonjour à toutes et à tous.
Je veux que les droits de tous et tous soient plus justes selon les catégories. Et donc je veux que, quelle que soit votre situation, votre statut, vous puissiez avoir un droit au chômage. Que vous soyez commerçant, indépendant, entrepreneur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec en même temps des droits et des devoirs. Et je propose une réforme en profondeur de l'assurance chômage et de notre formation continue pour qu'elle soit plus efficace.
Le candidat Emmanuel Macron aux 20h de TF1 en février 2017. La réforme de l'assurance chômage, c'était dans son programme. Peut-être n'a-t-on pas assez prêté attention aux mots, une réforme en profondeur. On refait le film. Objectif 1, offrir une protection aux démissionnaires et aux indépendants. Ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'ils espéraient, mais oui, c'est fait. Objectif 2, lutter contre l'explosion des contrats courts. Eh bien, nous y sommes. La méthode de l'exécutif, aujourd'hui, elle indigne les syndicats. Une centaine d'économistes aussi, ils ont signé une tribune cette semaine. Et pourtant, la réforme la plus profonde de l'assurance chômage, ce n'est pas maintenant. La révolution, elle est déjà arrivée et c'était il y a 3 ans. C'est la démonstration du chercheur Bruno Coquet. En 2018, les cotisations chômage des salariés ont été supprimées au nom du pouvoir d'achat, remplacées par une augmentation de la CSG. Eh bien, c'est là que l'assurance chômage, qui mettait en rapport des cotisations et des allocations, s'est transformée en assistance chômage, nous dit-il, financée par l'impôt comme la solidarité. La différence, me direz-vous, eh bien, c'est que quand l'État prend en main, théoriquement, il peut décider seul de la taille du filet de sécurité. Ça veut dire l'allocation qu'on recevra, le travail qu'on acceptera, le futur salaire auquel on pourra prétendre. Oui, ce changement de tuyauterie financière pourrait donc, en réalité, transformer toute la philosophie de l'assurance chômage. Et au bout du compte, question, au bénéfice de qui, au bénéfice de quoi? Eh bien, lisez la dizaine de pages de ce livre, L'économie française 2022, c'est publié aux éditions La Découverte et le chapitre s'intitule « Main basse sur l'assurance chômage ».
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Maguéco. Nous discutons de l'économie comme nous la vivons et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Les entreprises plus soucieuses de la planète, plus soucieuses d'une juste répartition entre dirigeants, actionnaires, salariés, c'est ce qu'on appelle le capitalisme responsable. Et personne ne pense aujourd'hui que nous y sommes. Alors pour aller au-delà des grandes déclarations, par quel chemin faudrait-il passer? Ce samedi, l'invité du Maguéco est un activiste, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente. Jusqu'en mars dernier, il était le PDG de Danone. Il n'a pas parlé depuis. Emmanuel Faber en direct dans ce studio d'ici moins de 20 minutes. Le virage écolo, c'est souvent par les normes et les interdictions que les entreprises l'abordent. Regardez par exemple la filière automobile. Mais aujourd'hui, ces entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses à être interpellées de l'intérieur par des collectifs de salariés. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Nous avons aussi rendez-vous ce matin, et comme tous les samedis, avec Madame Vieau-Boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
C'est Christophe qui vous a écrit. Qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a fait réagir?
Eh bien oui, le chef de l'État a annoncé lundi une défiscalisation des pourboires. Est-ce que ça peut marcher? Ne vaut-il pas mieux augmenter le FIC? Ce sont les questions de Christophe.
Et Christophe, les réponses de Sandrine Foulon, ça sera juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat. Nous accueillons ce matin Béatrice Mathieu de l'Express. Bonjour Béatrice.
Bonjour Alexandra.
Et bienvenue. Et puis Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Le sujet s'est imposé aux Français, aux Européens et même à toute la planète. Les prix de l'énergie flambent. Comment encaisser ce nouveau choc aujourd'hui et demain? La tension est montée toute la semaine.
Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de plus de 12% en octobre. On parle déjà d'une hausse de 15% en novembre. On est en pleine campagne présidentielle. Ça inquiète forcément le gouvernement.
Le prix du gaz est sur une mauvaise pente, c'est-à-dire elle est ascendante.
Jean-François Carenco.
Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la France.
Président de la commission de régulation de l'énergie.
C'est du fait d'une part de l'approvisionnement en provenance de la Russie et de la Norvège. C'est du fait d'une surconsommation du gaz en Asie du fait de la relance. C'est du fait de la taxe carbone. C'était il y a 2 euros il y a 3 ans ou 4 ans, c'était à 60 euros la tonne.
Je crois qu'il faut qu'on remette les choses à leur place. Ce qui monte en ce moment, c'est le gaz.
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.
L'électricité, c'est prévu, mais seulement en février. Donc rien ne bouge avant février pour l'électricité. Et que sur le gaz, on a 10 millions de foyers qui sont concernés par le chauffage au gaz. Et c'est la moitié de ces foyers qui sont concernés par les hausses, parce que l'autre moitié, ils ont des contrats sur des tarifs qui ne bougent pas pendant plusieurs années.
Comment réduire nos factures d'énergie ? Gaz, électricité, carburant, fuel, tout cela coûte de plus en plus cher, particulièrement en cette rentrée.
Là, il y a un choc qui n'était pas prévu, qui n'était pas anticipé par les ménages les plus pauvres, et c'est le rôle de l'État d'assurer contre ces chocs qui n'étaient pas prévus.
Xavier Rago, président de l'OFCE.
Ça veut dire, les prix vont fluctuer comme ça. Aujourd'hui, les marchés, ils ont du mal à gérer ces grandes fluctuations. Je crois que c'est le rôle de l'État de faire de sorte que ce prix qui augmente continuellement, qui soit prévisible, qui entraîne des changements de comportement sur les chaudières, sur les voitures, sur la mobilité, tout ça, tous les ménages, nous, vous et les ménages les plus pauvres, devront changer de mode de vie.
On va avoir, à partir du printemps, une forte baisse des prix du gaz.
Jean Castex, Premier ministre.
Donc nous avons à gérer une bosse. Nous allons mettre... pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. Le tout, c'est que pour les consommateurs de gaz, il n'y ait pas cette hausse extrêmement forte qui est prévue.
Je vais vous dire à peu près les choses comme elles sont. Il y a en gros 35 millions, 36 millions d'Européens qui sont aujourd'hui en situation de difficulté par rapport à l'énergie. Il faut s'en occuper.
Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.
Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance où nous, on va voir... Et ça va durer encore quelques mois. Hein. Je pense que ça peut durer tout l'hiver.
C'est souvent le cas avec les sujets économiques. On a toujours l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, toujours ou plutôt souvent. Nous tombe sur la tête sans prévenir et on a aussi l'impression que c'était mieux avant. Béatrice Mathieu, je me tourne vers vous. Que nous arrive-t-il ? Est-ce que cette flambée des prix de l'énergie, c'est une surprise ? Est-ce que c'est une forme de quatrième choc pétrolier qu'on vivrait ?
Alors, quatrième choc pétrolier, si on fait référence au premier et au deuxième des années 70, c'est sans doute un peu fort, mais ce qui est vrai, c'est que ce choc-là est totalement inattendu. Il touche toutes les énergies fossiles, l'essence, le fuel domestique, le gaz, et effectivement, par ricochet, l'électricité, alors qu'on se croyait protégé par notre parapluie des centrales nucléaires. Donc, effectivement, il est extrêmement violent. Et il vient aussi, ça fait deux ans qu'on est dans une situation totalement chamboulée sur les modes d'approvisionnement, sur la croissance mondiale. On a une croissance là qui repart fortement. Donc évidemment, tous les équilibres en fait sont fortement perturbés. Ce qui se passe quand même, c'est que notamment sur la question du gaz, la Chine, c'est presque une bonne nouvelle. La Chine est en train de se débarrasser d'une partie de ses centrales à charbon, donc importe massivement du gaz et notamment du GNL, hein, du gaz liquéfié, qui vient des États-Unis, qui vient des Émirats. Donc, il y a aussi moins de bateaux de GNL qui arrivent en Europe. Il y a des chiffres qui sont sortis cette semaine pour montrer ça. Là, c'est la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie, qui disait que l'Europe cet été a reçu 13 navires de GNL. L'année dernière, elle en avait reçu 21.
Donc choc d'offres.
Il y a aussi des éléments géopolitiques avec le jeu un peu trouble que mène la Russie avec la mise en place de son nouveau gazoduc Nord Stream 2 qui doit approvisionner une partie de l'Europe. Donc, il n'ouvre pas complètement à fond
le robinet
pour laisser monter un petit peu les prix. Donc, tout ça se cumule pour expliquer ce choc qu'on voit aujourd'hui et qui est massif.
Alors, on peut comprendre sur le gaz, mais c'est vrai qu'on entend des gens qui nous disent, Christian Chavagneux, mais attendez, mais l'électricité, on a des centrales nucléaires. Donc, pourquoi l'électricité aussi ?
Déjà, un petit mot sur surprise ou pas surprise. Ouais. Les prix des matières premières, style pétrole, gaz, ça a toujours fait des yo-yo. Donc là, on en parle parce que ça monte, on n'en parle jamais quand ça baisse. Mais ça fait toujours des yo-yo, ça monte toujours et ça baisse toujours.
Le prix du gaz, c'est plus 57% alors, depuis janvier. Là, quand même, c'est
sur le prix du gaz, je suis assez d'accord avec Béatrice. Il y a des phénomènes d'offre et demande qui jouent, tout bêtement. On a eu un hiver froid et long l'année dernière. Du coup, il y a moins de stock. D'habitude, au mois de septembre, on a à peu près 90% des capacités de stockage. Aujourd'hui, on a 65%. Donc, sont déjà moins de stock. Il y a une forte demande qui est liée à la reprise, comme l'a dit Béatrice. Il y a la hausse de la taxe carbone aussi qui fait qu'on se reporte du charbon vers le gaz. Et comme l'a très bien expliqué Béatrice, en Union européenne, un tiers du gaz vient de la Russie et un peu de la Norvège. Mm-hmm. Nous, la France, c'est plutôt 40% de la Norvège et un peu moins de 20% des Russes. Mais la Norvège a eu un problème d'offre à cause de la pandémie et la Russie, comme l'a dit Béatrice, manipule Gazprom manipule complètement le marché pour que les prix restent en hauteur.
Mais donc, alors l'électricité,
sur le gaz, moi ça me va en gros.
Ça
s'explique.
Vous chauffez
Je me chauffe au gaz malheureusement, ouais. Mais ça s'explique par les phénomènes de marché et un peu de géopolitique.
Alors sur l'électricité, Béatrice.
Alors sur l'électricité,
on a des centrales nucléaires.
Alors là, il faut juste faire un tout petit cours très rapide.
Mettez votre énergie là-dedans.
Voilà. On a pour produire de l'électricité plein de différentes sources d'électricité. On a nos centrales nucléaires, on a de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique. Sur le marché de gros, en fait, où se fournissent les fournisseurs, ceux qui nous vendent de l'électricité, eh bien, le prix est déterminé en fait en fonction du coût de la dernière centrale qu'on va allumer. Or, en France, le nucléaire sert à faire la base en fait de la fourniture d'électricité. Et quand il y a des pics de demande, eh bien, on ouvre des centrales et celles qu'on ouvre en ce moment, c'est des centrales à gaz. Et donc, on revient sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est le gaz a flambé. Et donc, les centrales à gaz fournissent une électricité aujourd'hui qui est chère, d'où cette flambée des prix de l'électricité.
Et qui, dont Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit que, je ne retrouve plus son mot là tout de suite, c'était aberrant, c'était obsolète comme système, c'est ça?
Il a tout à fait raison, parce que là, pour le coup, quand on regarde la demande d'électricité au mois de septembre par rapport à la demande d'électricité les mois de septembre, on va pas dire 2020, c'était particulier, mais les années précédentes, on est à peu près au même niveau de demande. Et pourtant, les prix sont 3-4 fois supérieurs. Donc là, les phénomènes de marché d'offre et de demande, ça fonctionne pas. Et Béatrice, quand même, si vous avez bien écouté ce qu'elle vient de nous dire...
Absolument.
Elle nous a dit que avec la libéralisation des prix des marchés, aujourd'hui, on a un prix qui ne reflète pas le coût de production. Le coût de production moyen, le prix n'a plus rien à voir avec le coût de production. Qu'est-ce que c'est que ce marché où quand moi, je suis une entreprise, mon prix n'a absolument rien à voir avec mon coût de production. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'avec la concurrence, ça fait monter les prix, en fait. La concurrence, ça fait monter les prix. Il a raison, Bruno Le Maire. C'est complètement aberrant. Et en plus, c'est pas le même marché pour tous. Hier après-midi, en préparant l'émission, j'étais regardé le prix spot de l'électricité pour voir à combien je pouvais l'acheter.
Le prix spot de l'électricité, c'est quand on va sur les marchés de gros et qu'on veut acheter sans contrat. C'est tout de suite, hein. Ouais. Je t'achète tout de suite.
105 euros le mégawattheure pour la France. 190 pour l'Italie, 223 pour l'Espagne. Sur un marché européen, pourtant, c'est pas le même prix. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça dépend de la façon dont les États cherchent à contourner le marché. Il a raison, Bruno Le Maire. On a mis en place une libéralisation du prix, du marché de l'électricité, qui fait, comme l'a expliqué Béatrice, on est obligé d'aller chercher la dernière unité qui produit, et si c'est la plus chère, c'est elle qui fixe le prix, alors que les États passent leur temps à essayer de contourner. En Italie, qu'est-ce qui se passe? En Espagne, on fait des prix variables, donc tant pis pour vous, les prix montent, et ben vous paierez plus cher. En Italie, c'est un peu contrôlé. En France, c'est plus contrôlé. Et donc, nous, on paye moins cher. Voilà. C'est quand on contourne le marché que ça marche mieux.
Allez, Béatrice.
C'est une libéralisation partielle du marché. Parce qu'en réalité, et notamment la France n'a jamais voulu de cette libéralisation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a maintenu des tarifs réglementés.
Sauf que même dans les tarifs réglementés, il faut quand même aller chercher en partie les yo-yo du prix du gaz, ce qui fait que nous aussi, on prend quand même la hausse.
Oui, mais c'est limité. La hausse est limitée.
Elle est limitée, mais elle est là.
Il y a de la politique, donc, dans le prix de l'énergie.
Complètement.
Eh bien, parlons-en, puisque donc là, on a le bouclier tarifaire annoncé par Jean Castex. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'était le bon outil à activer? Christian.
L'électricité, l'énergie, c'est un bien économique. On voit que ça joue sur le pouvoir d'achat, sur notre pouvoir d'achat, sur la compétitivité des entreprises. C'est aussi un bien social de première nécessité. Il faut qu'on puisse se chauffer et se nourrir. C'est aussi un bien environnemental. Il faut passer à des sources d'énergie décarbonées. Est-ce que avec une mesure, quelle que soit la mesure gouvernementale, vous allez arriver à contourner le marché pour que ça puisse, les prix de l'électricité, jouer ces trois rôles. La question qui est posée au gouvernement. Comment est-ce qu'on contourne le marché pour que le prix de l'électricité soit à la fois économique, social, environnemental? Alors oui, on peut faire un chèque énergie. on peut faire un chèque énergie, mais qu'est-ce que vous avez la grande vague de la libéralisation qui fait monter les prix, vous épongez. Oui, il faut éponger, c'est bien, mais vous ne faites qu'éponger. Il faut aller beaucoup plus loin dans la remise en cause de la libéralisation du marché de l'électricité. Il faut que l'État reprenne la main sur une planification à moyen long terme des prix de l'électricité et qu'on arrête d'avoir ces yo-yo. Oui, il faut que la taxe carbone monte parce qu'il faut qu'on change le comportement, mais quand c'est organisé par l'État, on monte tout doucement, on redistribue pour les plus pauvres. Là, on n'a pas ça.
Mais là, on a une bosse. Je voudrais d'abord.
Même avec la libéralisation partielle dont a parlé Béatrice, on a nos yo-yo. C'est pas acceptable.
Alors, attendez, mais je vais reprendre l'argument que vous donniez tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on ne parle des prix que quand ils montent et jamais quand ils baissent. Il y a un moment où les prix des fournisseurs alternatifs étaient plus bas que le tarif réglementé. Et là, vous n'en parliez pas.
Eh ben, tant pis, ils auraient dû disparaître.
Je reviens sur un point sur la crise politique. Évidemment, c'est éminemment politique parce que ce choc est profondément inégalitaire. Mmh. Inégalitaire socialement, c'est terrible. Quand on sait que les dépenses d'énergie, c'est-à-dire chauffage et transport, ça représente entre 12 et 14% en fait des dépenses des ménages les plus pauvres. Pour les plus aisés, c'est 4%. Donc on voit bien, quand vous avez un doublement de ce poste-là, l'impact, ce que ça peut donner. C'est très inégalitaire aussi géographiquement, où on sait, là, c'est ce qu'on a vécu il y a 3 ans au moment des Gilets jaunes, où ceux qui sont dans cette France périphérique, obligés de prendre leur voiture, qui habitent dans des pavillons mal chauffés, des passoires thermiques, ils sont plus frappés que ceux qui sont en centre-ville et dans des logements collectifs.
Mais donc là, Béatrice, donc là, le bouclier tarifaire, quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jean Castex, il a gelé il l'a lissé en réalité, on paiera plus tard, c'est ça, si j'ai bien compris. Il a limité la hausse du prix de l'électricité, c'était la bonne solution dans l'urgence, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Oui, parce que de toute façon, là, effectivement, c'est un bien essentiel et donc l'État doit intervenir. Est-ce que c'est à la hauteur? Sans doute pas. Le chèque énergie de 100 euros, la rallonge de 100 euros, c'est évidemment pas assez. Et là, il fait un pari. Il fait le pari que nous sommes sur une bosse et qu'on va avoir effectivement cette décrue
après
l'élection présidentielle. C'est un gros pari. De toute façon, il faut compenser l'alourdissement terrible pour les ménages les plus modestes. Et sans doute que le gel est préférable à la baisse de taxes, parce qu'il aurait fallu baisser les taxes de façon très très importante pour compenser la hausse des prix de gros, et on n'aurait pas eu
et
la
là,
même
ça
chose.
Coûte trop cher.
Mais si je vous comprends, Christian, on va peut-être terminer là-dessus, si je vous comprends, ça c'est quand même une façon de résoudre le problème là dans l'urgence, et vous dites, à moyen long terme, on n'a rien résolu.
Non, on n'a rien résolu. Les prix du pétrole et du gaz vont augmenter dans les années qui viennent, ne serait-ce que parce qu'on le souhaite politiquement. Donc la première chose à faire, c'est des investissements publics massifs pour réduire la consommation. Toute l'énergie la moins chère.
Ça veut dire isoler ses logements.
Ça veut dire isoler ses logements. Ça veut dire investir dans le vert plutôt que dans les bois pour les entreprises. Ne comptons pas sur les EPR. On n'a même pas réussi à en faire un qui fonctionne. Donc on va pas en mettre 6 de plus qui fonctionnent pas. L'ADEME et plein d'économistes nous disent maintenant un scénario français 100% renouvelable, c'est possible. Donc allons-y.
Non. Béatrice. Mais non, c'est pas possible. C'est-à-dire que le mix énergétique,
le lobby nucléaire derrière,
pas du tout. Le mix énergétique, c'est comme dans une société, il faut de la diversité. Donc il faut du nucléaire, comme il faut des renouvelables.
De l'éolien, de la biomasse,
oui,
de l'hydraulique.
Tout à fait.
Ça tombe bien. On aura le temps d'en parler. C'est bientôt la présidentielle. En effet, le mix énergétique, je pense que c'est un thème important pour les citoyens. Christian, Béatrice, la planète Éco maintenant, comme elle tourne ailleurs, soumise à des vents contraires. Ce matin, nous prenons la direction du Royaume-Uni.
Over the summer, we've gone from a situation where our members were much more optimistic about future prospects for the wider UK economy to a situation, sadly, where just slightly more people are pessimistic.
C'est la chef économiste de l'organisation patronale britannique Institute of Directors qui parle. Alors, on a compris les mots. Hein. Ils étaient optimistiques, les patrons, cet été. Voilà, les voilà pessimistiques à la rentrée. Les nuages s'amoncellent sur l'économie outre-Manche. Et c'était d'ailleurs la une du Financial Times. Hier, les chefs d'entreprise sonnent l'alerte. Bonjour Claire Di Giacomi.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Claire, vous êtes correspondante de France Inter à Londres et la Fédération des PME parle à présent d'une tempête d'automne qui touchera tôt ou tard les citoyens.
Oui, Alexandra, cette semaine, par exemple, vous avez peut-être vu à la télévision des images de files d'attente interminables devant les stations-service britanniques à cause de problèmes d'approvisionnement en essence qui ont créé la panique. Et c'est l'une des crises de cette tempête d'automne que vous évoquiez. En fait, le pays manque de main-d'œuvre à cause notamment du Brexit qui empêche désormais le recrutement d'Européens sans un visa. Il manque donc des chauffeurs routiers pour livrer l'essence, justement, mais aussi la nourriture dans les supermarchés. Il manque également des ouvriers agricoles, des bouchers. Alors la préoccupation des Britanniques en ce moment est de savoir s'il y aura assez de dinde sur les tables à Noël, assez de cadeaux sous les sapins. Un autre ingrédient de ce cocktail explosif est intervenu jeudi, la fin du chômage partiel, un filet de sécurité qui avait été accordé aux entreprises pendant la pandémie. On s'attend à ce que le taux de chômage actuellement à 4,6% remonte. Nouveau coup dur hier, vendredi, avec la hausse de 12% du plafond des prix de l'énergie. Enfin, une autre difficulté est prévue la semaine prochaine pour les ménages, la baisse des minima sociaux. Malgré cette situation chaotique, le gouvernement britannique reste confiant sur le long terme en comptant sur la transformation de son économie autour d'une main-d'œuvre nationale et non plus étrangère. Mais en attendant, la Banque d'Angleterre a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le troisième trimestre à 2,1%.
À Londres, Claire Di Giacomi, merci à vous Claire, merci aux débatteurs de ce samedi 2 octobre, Béatrice Mathieu de L'Express et Christian Chavagneux d'Alternatives économiques. L'invité du Mageco est resté silencieux depuis 6 mois, depuis son éviction à la tête de Danone, il fait déjà la grimace. Il a choisi France Inter ce matin, merci et bienvenue Emmanuel Faber.
Merci Alexandra.
Vous n'avez pas été silencieux ?
Non, j'ai pas eu l'impression d'avoir été très silencieux, calme, mais pas toujours silencieux.
Alors, vous vous définissez aujourd'hui, en tout cas c'est ce que dit votre compte Twitter, comme activiste. Emmanuel Faber, ça veut dire quoi ? PDG, on savait. Activiste, ça veut dire quoi pour vous maintenant ?
Je n'ai jamais été PDG sans être activiste et réciproquement. Donc, pour moi, l'activisme, ça consiste simplement à se dire que le statu quo n'est pas tenable et qu'il faut faire changer les choses. C'est ni plus ni moins que ça.
Quel statu quo ?
En l'occurrence, si on est plus précis sur mon compte LinkedIn, en l'occurrence, le réglage entre l'économie, le social et le climatique.
Le social, justement. On vient de débattre du prix de l'énergie. C'est le retour de l'inflation. Vous voyez que la question des salaires, elle est en train de s'installer. Est-ce que les entreprises devraient faire plus ?
Bon, ça, c'est une grande question. Je pense que beaucoup de grandes entreprises, en tout cas, ont plutôt protégé le pouvoir d'achat en France dans les dernières années. La question des inégalités de salaire, c'est une question qui s'inscrit, je pense, dans une question plus large sur les inégalités et sur lesquelles, pour moi, il est clair que à la fois l'économie et le politique doivent faire plus. Mais pour ça, faut juste considérer que c'est pas juste une question de les mesurer aujourd'hui et sur le plan salarial. Les inégalités, elles deviennent importantes à régler lorsqu'elles déforment les consensus démocratiques, sociaux, de consommation, de choix, en fait, et des salariés et de plein d'autres. Or, les normes sociales, elles évoluent beaucoup à la faveur des réseaux sociaux. On peut juste prendre par exemple Black Lives Matter aux États-Unis est en train de déformer le consensus social au point que, sans doute d'ici 2 ans, il y aura des normes pour les entreprises sur les questions d'inclusion et de diversité qui s'imposeront à elles.
Mais ça, sur les salaires dans l'entreprise, est-ce qu'elles sont en train d'évoluer ces normes, comme vous dites ? Est-ce que les entreprises regardent de suffisamment près ce qui se passe à l'intérieur ?
Moi, je pense que oui. J'ai un patron qui regarde pas la question des salaires dans son entreprise, c'est juste pas un patron. Et il y a des forces de rappel incroyables pour le faire. En France en particulier, la présence des syndicats, mais pas que. Et puis la voix des salariés qui s'élève, et puis le choix des salariés. Pour tous ceux qui ont le choix d'aller dans une entreprise plutôt que dans une autre, ils l'expriment. Pas nécessairement d'ailleurs au regard du salaire, mais au regard du sens qu'ils trouvent à participer à une aventure collective. Mais je reviens une seconde sur les inégalités, parce que les inégalités salariales sont une partie importante de la question, mais c'est très loin d'être la seule. En particulier parce que on voit très bien qu'au travers de la crise sanitaire, il y a des inégalités qui existaient et qui apparaissent alors qu'elles n'étaient pas visibles. La crise sanitaire crée de nouvelles inégalités, et par ailleurs la crise climatique va en créer de nouvelles. Donc cette question des inégalités, qui n'est pas que salariale, qui est du pouvoir d'achat, qui est plein de choses, elle doit absolument être, de mon point de vue, prise en main de façon plus stratégique encore qu'elle ne l'est, et par les acteurs de l'économie, et je pense aussi par les gouvernements.
Encore une question quand même, parce que vous êtes déjà exprimé là-dessus, et parce que vous avez agi lorsque vous étiez à la tête de votre entreprise. Cette année, les patrons du CAC 40 devraient toucher en moyenne 5 300 000 euros. Est-ce que la rémunération des grands patrons, ça fait partie du problème ?
Personnellement, j'ai fait des choix différents, de réglages différents, qu'il n'a pas été facile de mettre en place dans un système qui est mécaniquement inflationniste, et malheureusement, on n'a pas trouvé mieux encore. Je ne crois pas à la régulation du salaire des patrons par l'État. Je ne crois pas au fait au contrôle des prix dans une économie de marché. En revanche, la démarche des actionnaires qui s'intéressent de plus en plus à ces questions-là, à mon avis, est fondée. Et on trouvera sans doute, lorsque la question du salaire des patrons apparaîtra comme étant une question qui mine le consensus social et l'action collective de l'entreprise, et ça, il y a plein de signaux qui peuvent le montrer le cas échéant, apparaîtra comme suffisamment importante pour que les actionnaires s'en saisissent. Donc je pense plutôt à une régulation par le système lui-même économique que par une régulation du point de vue d'un contrôle des prix par l'État.
Pour l'instant, les actionnaires, c'est le CEO&P, ils disent toujours à peu près oui sur ces grandes rémunérations.
Ils disent la plupart du temps oui, sauf que vous avez vu, et il faut quand même le rappeler aussi, beaucoup de directions d'entreprise et de conseils d'administration au milieu de la crise sanitaire de 2020 renonçaient à des éléments parfois vraiment significatifs de rémunération. Chez Danone, c'était moins 30%. Bon, mais il y a plein d'autres entreprises qui l'ont fait. Si vous imaginez que ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, il faut le prolonger pendant 5 ou 10 ans, parce que la crise climatique à laquelle il va falloir s'attaquer, elle va avoir des conséquences sociales au moins aussi importantes, alors peut-être que, de nouveau, la question du consensus autour des salaires des dirigeants de l'économie se reposera.
Alors, la crise climatique, justement, aujourd'hui, les entreprises, elles font face à des collectifs de salariés qui se montent pour faire pression de l'intérieur, pour les faire évoluer, passer à la vitesse supérieure plus rapidement. Je vous propose, Emmanuel Faber, qu'on écoute ce reportage ensemble, on en parle ensuite.
Bonjour, Benoît.
Enchanté. Benoît, on est chez vous, à Paris. Et donc, vous êtes en fin d'études. Racontez-nous un peu où vous en êtes.
Je viens de finir donc 6 années d'études, où j'ai été étudiant en polytechnique.
Et ça se passe sur le plateau de Saclay ?
Ouais, c'est ça.
Sur le plateau de Saclay, je sais qu'il y a le projet de Total de créer un centre de formation.
Alors, Total a envie d'implanter sa direction recherche et innovation au cœur du campus de Polytechnique, donc un grand bâtiment où il y aura 250 personnes qui vont travailler, des ingénieurs, des chercheurs.
Et du coup, est-ce que vous pourriez travailler là avec Total ?
Non, moi c'est sûr que je ne travaillerai pas pour Total, parce que j'ai pas envie de travailler pour l'industrie pétrolière, et puis parce que c'est une boîte qui, à mon avis, n'a pas du tout le bon business model, vu les enjeux auxquels on fait face.
C'est-à-dire, il faudrait quel business model pour que vous puissiez dire oui ?
En fait, il faudrait qu'ils aient une stratégie qui soit vraiment compatible avec les accords de Paris. Tant que Total n'aura pas arrêté ses projets dans le pétrole et dans le gaz et arrêté de chercher, de faire de l'exploration-exploitation, ben, j'irai pas travailler chez eux.
Et du coup, pour eux, ça peut être un manque de pas avoir des personnes comme vous, diplômées de Polytechnique, dans leur entreprise ?
Ouais, Patrick Poyanet, le PDG de Total, disait que c'était un des plus grands risques. En 2019, dans une interview, il a dit que c'était un des plus grands risques pour l'entreprise de ne pas réussir à recruter des jeunes talents, et en particulier des jeunes ingénieurs.
Et Benoît, est-ce que vous pourriez travailler pour L'Oréal, par exemple ?
Moi, je crois que j'aurais pas envie de travailler pour L'Oréal. L'Oréal, c'est une entreprise qui est vue comme sérieuse d'un point de vue environnemental. Mais fondamentalement, leur business model n'a pas réellement changé. C'est-à-dire qu'ils continuent de vendre des produits de beauté des flacons plastiques, alors certes recyclés, mais ça reste des flacons plastiques, en répondant à un besoin qu'ils ont souvent eux-mêmes créé. Toujours produire plus, toujours vendre plus de produits. Et ça, c'est pas compatible avec une société qui est sobre. Et c'est ce vers quoi il faut aller si on veut réussir la transition écologique.
Et est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui sont en fin d'études, comme vous, et qui sont dans cet état d'esprit-là ?
Ouais, moi j'en vois de plus en plus. Je dirais qu'il y a au moins 80% des élèves qui sont intéressés et préoccupés par ces questions, dans nos écoles d'ingénieurs en tout cas.
Oui, 80%, ça fait beaucoup.
Bah, c'est ce à quoi j'évalue. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est la cause de préoccupations majeures et qu'il y a quand même de plus en plus de personnes dans les écoles d'ingénieurs qui s'investissent sur ces questions.
Très bien, merci Très bien. Beaucoup.
Okay.
Des interpellations sur le climat, ça se passe au moment du recrutement donc, et ça ne cesse pas après l'embauche. Depuis quelques années, chez Suez, Bouygues, Airbus ou encore Essilor, des salariés montent des collectifs dans leurs entreprises pour les pousser à accélérer leur transition. On en compte 100 de ces collectifs aujourd'hui. Parviennent-ils à peser? Notre reporter Anaël Verzo a rendez-vous avec Stéphane Bouvet. C'est une petite entreprise de service, 60 salariés. La mobilisation, le patron l'a vu monter.
Bonjour. Bonjour.
Je suis Stéphane.
Enchanté. Eh ben, enchanté.
On vous laisse mettre là-bas si ça vous va.
Ouais, bah, où vous voulez.
Venez. En fait, chez nous, on a une, ce qu'on appelle une tribu hein, qui s'occupe des sujets de sustainability. C'est un groupe de consultants qui sont concernés de plus près par les sujets de développement durable et qui, du coup, poussent des initiatives en interne pour qu'on améliore notre sensibilisation sur le sujet, nos actions dans le sens de décarboner, etc.
Comment s'appelle cette pièce dans laquelle on se trouve là? C'est une salle de réunion, non, Stéphane?
C'est notre salle de réunion, ouais. On l'a pas encore baptisée, mais il faudrait qu'on le fasse.
Et alors là, au milieu de cette table, cette grande table de réunion, il y a un document, 13 points clés du nouveau rapport du GIEC.
Et puis la même
pardon,
chose.
Pardon, Yoann.
Oui, je disais qu'il y a, il y a 5 impressions ici et 5 au bureau de Lyon.
D'accord. Donc. Et vous avez fait ça en discutant avec Stéphane, avec votre supérieur ou...
Pas vraiment, non.
On a pris l'initiative.
Ça a été la surprise. Un matin, vous êtes arrivé, il y avait ce document.
Quasiment, exactement. Et c'était une bonne surprise. Et voilà, on prend toujours le temps d'apprendre un peu plus là-dessus. Donc c'est bien.
Alors, est-ce qu'avec tout ça, vous arrivez à réduire votre empreinte carbone? Enfin, je sais pas, vous dites comme ça entre vous?
Oui, oui. D'ailleurs, on l'a calculé, notre empreinte carbone, évidemment. Hein, on l'a calculé, je pense, dès 2019.
Exactement. Voilà, si on regarde un peu nos émissions carbone, il y en a la moitié, c'est les déplacements en avion, 50%. Et donc, effectivement, il y a des leviers à activer, comme la substitution. Je change, plutôt que de prendre l'avion, je prends le train.
Le fait de prendre le train plutôt que l'avion, ça peut sur le moment revenir moins cher. En revanche, ça veut dire peut-être une nuit d'hôtel à payer, ça veut dire...
Ouais, alors, il est vrai que il y a une notion d'arbitrage entre des problématiques carbone et des problématiques financières. Elle est, enfin, cet arbitrage se pose assez souvent. La bonne nouvelle, c'est que tout ne coûte pas forcément plus cher. Hein. On a des choses qui sont des améliorations à la fois sur le plan des coûts, par exemple, et sur le plan du carbone.
Vous avez en tête...
Typiquement, réduire les déplacements. Si vous réduisez, dans une organisation, vous réduisez les déplacements pour un, voilà, parce que vous voulez être plus efficace, vous allez avoir le double bénéfice. C'est-à-dire que vous allez être plus efficace dans l'utilisation de vos ressources, de vos équipes, et en même temps, vous allez créer moins de carbone puisque vous allez moins vous déplacer. Et ça, voilà, c'est des questions qui commencent à être récurrentes et il faut s'efforcer de rester vraiment en lead sur ce sujet, en avance, parce que ça devient un élément de différenciation vraiment, à la fois pour nos clients, et on comprend que ça va bientôt être demain un élément vraiment tout à fait déterminant pour travailler avec eux. Et puis, ça devient aussi un élément très important dans les recrutements. Et ça, c'est peut-être un phénomène un peu nouveau. Les jeunes qu'on voit, ils souhaitent absolument voilà, qu'on démontre et que ce soit concret des choses sur l'environnement. Et c'est important pour eux, c'est premier pour eux qu'on soit crédible et sincère là-dessus. Je pense que la sincérité est un élément important aussi.
Il écrit quoi, là?
C'est
alors là, sur le mur végétalisé, dans cette pièce, il y a écrit Yoann, Filou...
En fait, c'est deux consultants qui ont pris le pari d'adopter deux plantes. Et d'ailleurs, ils se sentent un peu seuls, donc ils ont demandé à tout le monde de venir mettre un post-it pour qu'on adopte tous notre petite plante.
Merci beaucoup
pour
l'accueil.
Et il existe aujourd'hui 100 collectifs de salariés regroupés en une fédération. Parmi eux, il y a Michelin et la transition écologique. Il rassemble 90 personnes. Il a été créé par Alexis, un ingénieur spécialiste cycle de vie du pneu chez Michelin, à Clermont-Ferrand. Je l'ai appelé et je lui ai demandé quelles actions menait son collectif.
Alors concrètement, les actions qui ont, on va dire, abouti au sein du collectif, c'est des actions qu'on retrouve dans beaucoup d'autres collectifs, dans d'autres entreprises en France, qui font tout ce qui va tourner autour des petits gestes du quotidien, avec les éternels un petit peu gobelets, même si c'est pas non plus la terminée, la fresque du climat, ce genre de choses. En revanche, il y a d'autres choses pour lesquelles on n'a pas réussi à aboutir, on va dire, mais qui sont en cours, qui sont davantage liés à notre volonté de se positionner comme une partie prenante et comme un challenger pour l'entreprise, de façon à chercher à proposer de nouvelles manières d'envisager le business pour l'entreprise, soit en montrant nos doutes sur les choix des segments de vente qui sont choisis par l'entreprise, soit en essayant d'amener des réflexions autour de quelle place pourrait occuper l'entreprise dans une mobilité désirable à horizon, par exemple, 2050, où potentiellement on se déplacerait plus autant en voiture, peut-être aussi moins se déplacer, ce qui n'est pas forcément antinomique avec le fait de faire du business, puisque dans ce cas-là, on peut réfléchir autour de notions servicielles.
Cette hypothèse-là, par exemple, est-ce que vous l'avez formulée à votre direction, le fait de faire du service à long terme, hein, mais de finir par faire du service plutôt que de fabriquer des pneus?
Alors, c'est des choses qui ont été partagées, effectivement, mais on en est encore à l'état du concept, on va dire. On a commencé à formuler des idées de type de service que l'entreprise pourrait proposer, mais ça nécessite évidemment d'approfondir bien plus le sujet que ce qui a été fait maintenant pour lui donner du corps et lui donner aussi potentiellement une réalité économique.
Est-ce que la direction s'est opposée ou ça a été facile, enfin...
Alors non, on a toujours été très très bien reçus dans les discussions qu'on a pu avoir avec la direction. On pense que c'est possible d'aller vers quelque chose de plus vertueux sur le plan environnemental, respectueux des personnes, et qui permette aussi à l'entreprise de générer du profit, et donc quelque chose qui n'est pas du tout antinomique avec la vision de l'entreprise.
Alors, vous n'êtes pas le seul collectif hein, de salariés comme ça, il y en a... Vous êtes combien au total, vous savez ?
Nos estimations, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 entreprises qui sont représentées au sein de l'association Les Collectifs, avec une diversité qui est très importante, aussi bien en termes de nombre d'employés dans chacune des entreprises que en termes de secteur. Je peux vous citer par exemple le collectif d'Engie qui a pas mal œuvré à l'époque pour intégrer des notions de sobriété dans l'activité de l'entreprise. Je peux penser aussi à EDF qui fait des choses remarquables et qui a un collectif très important. Probablement, ça doit être un des plus gros en termes de nombre de personnes représentées dans le collectif.
Qu'est-ce qu'ils font de remarquable du coup qui vous ferait envie?
Alors, pour répondre à ces questions-là, il s'agit d'un cycle de conférences qui a été organisé par l'entreprise, auquel participent des personnes d'EDF, mais aussi des personnes externes, dont l'objectif à terme sera de remettre un livre blanc pour éclairer ces questions.
Très bien, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée.
À vous aussi, au revoir. Voilà, il y a une pression de l'intérieur pour les entreprises. Et puis, il y a une autre pression, celle des actionnaires. Rodolphe Durand est professeur à HEC. Il a coécrit « L'entreprise de demain ».
Il y a une tendance de fond, peut-on dire, où l'on voit les salariés de plus en plus s'emparer de ces sujets. On parle là ici des entreprises en tant que telles, mais on peut aussi parler de leurs actionnaires, c'est-à-dire des investisseurs qui cherchent à investir dans des entreprises dont l'impact serait plus positif, l'impact environnemental. Et là, on peut parler du Green Deal et puis de la nomenclature qui est en train de se mettre en place au niveau européen, qui force chacun de ces investisseurs à se positionner eu égard à l'impact environnemental des différentes entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc il y a tout ce qu'on appelle une taxonomie, c'est-à-dire une catégorisation, une classification de ces investissements qui, lorsqu'on les met bout à bout, tous ces investissements, eh bien, donnent une gradation de vert à leur portefeuille d'investissement. Et cela, eh bien, ils doivent évidemment y prêter attention, ces investisseurs, et donc ils peuvent faire pression sur les dirigeants pour que leurs investissements soient dans les bonnes cases, soient de la bonne couleur. Il est bien évident que si on impose de nouvelles contraintes aux entreprises liées aux contraintes environnementales et aux limites planétaires, celles qui ne respecteraient pas ces contraintes pourraient sembler être en avantage par rapport à celles qui les respecteraient. Et donc, il s'agit de trouver un équilibre, notamment au niveau des grandes régions économiques, pour déterminer l'accès au marché en fonction de ces critères. Par exemple, l'Europe pourrait établir des réglementations ou imposer, lors des appels d'offres par exemple, que les entreprises hors européennes respectent ces contraintes, de même que les entreprises européennes.
Est-ce qu'on en prend le chemin d'après vous ?
Je pense qu'on a des indices qui montrent qu'on se dirige sur ce chemin, ou tout au moins que la question est posée.
Transition écologique, les entreprises travaillaient de l'intérieur. C'était le reportage d'Anna Elverzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et nous sommes toujours avec l'ancien PDG de Danone, Emmanuel Faber. Vous avez entendu le reportage, ces collectifs de salariés, est-ce que quand on est à la tête d'une multinationale, on les écoute? Est-ce que vous les voyez devenir puissants?
Oui, moi je crois à ça depuis longtemps, à tel point que chez Danone, on a même systématisé ça avec un programme qui s'appelle « Une personne, une voix, une action » par lequel 90 000 des 100 000 salariés de Danone s'expriment depuis 3 ans, tous les ans, sur la stratégie de l'entreprise et ses priorités, y compris sur la transition climatique d'ailleurs, mais également sur l'innovation, la recherche, la performance, Bicorp et plein d'autres choses. Donc je crois fondamentalement au fait que l'interrogation prolongation des salariés et leur participation à la construction de l'avenir sont des fondements du renouvellement stratégique des entreprises et demain de leur capacité à accompagner en profondeur la transition, parce que je le disais tout à l'heure, l'impact de la transition climatique sera social. Donc avoir embarqué les salariés, les représentants du personnel en l'occurrence également, et les syndicats dans cette aventure me semble fondamental. Donc ce qui est caractéristique de ces collectifs que nous avons entendus, c'est qu'ils sont volontaires et qu'ils se déploient de façon organique. J'encouragerais volontiers, et je sais qu'ils sont par ailleurs écoutés, j'encouragerais volontiers leurs dirigeants et leurs managers à les écouter, bien sûr.
D'accord, donc si on veut aller vers du capitalisme plus responsable, il faut aller vers plus de participation des salariés. Il y a la question qui est abordée dans le reportage des actionnaires. Alors soyons directs, quand dans une entreprise à mission, qui ne doit donc pas seulement se préoccuper de finances, on débarque le dirigeant parce que, entre autres griefs, la marge de Danone est tombée à 14% alors que celle de Nestlé fait 17%. Emmanuel Faber, quelles leçons il faut en tirer? Est-ce que le monde de la finance vraiment est moins court-termiste qu'avant?
Oui, et il faut simplement dire une chose, c'est que mon départ de Danone n'a rien à voir avec les actionnaires et rien à voir avec entreprise à mission. Rien avec entreprise à mission, puisque entreprise à mission a été votée à 99% par les actionnaires. Donc 6 mois après, on imagine mal qu'ils soient venus se dire, se gratter la tête finalement en se disant « non, c'est vraiment une très mauvaise idée ». Et rien en ce qui concerne les grands actionnaires, puisque un an avant, après 6 ans à la direction de l'entreprise, ils avaient eu l'occasion de mesurer à l'occasion de 2 mandats la performance et la stratégie de Danone, j'avais été renouvelé à 80%. Donc de nouveau, ça n'a rien à voir avec ça. À telle enseigne que le conseil d'administration devait se renouveler, c'est un sujet de gouvernance, c'est pas un sujet d'actionnaire, un sujet de gouvernance du rôle et de l'organisation du conseil, du rôle de chacun à l'intérieur de ça, sur lequel il y a eu des dysfonctionnements qui ont mené à une décision qui a été tellement pas acceptée par les grands actionnaires, eux, que le conseil a dû démissionner dans son intégralité et l'annoncer publiquement au mois de juillet. Donc ça dit bien l'inverse, c'est que ça va être difficile d'aller contre la volonté des grands actionnaires. On peut toujours essayer d'écouter des tout petits actionnaires quand ça nous arrange, en termes de gouvernance, mais les grands, ils sont là. Et ils sont là, et je voudrais compléter ce que disait Rodolphe Durand, pour moi, pas tellement dans la contrainte, c'est pas la contrainte des normes qui va faire bouger les entreprises. Je ne connais aucun patron avec lequel j'ai discuté, agi ensemble pendant des années, qui ne se préoccupe pas de l'avenir et qui n'est pas le souci de placer son entreprise de façon pérenne par rapport aux enjeux et climatiques et sociaux.
Oui,
je
mais
n'en connais
la,
pas.
Il y a la pression finance. Moi, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question sur la finance.
J'y viens. Pour moi, ça n'est pas tant le fait qu'il faille mettre des contraintes, mais au contraire, les autoriser. Et le moyen de les autoriser, c'est en effet de faire rentrer dans les nomenclatures des métriques qui sont absentes aujourd'hui.
Des métriques, ça veut dire des normes.
Des normes. Et le jour où on mesurera, par exemple, les émissions de carbone de toutes les entreprises, de la même façon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faudra ajuster ça secteur par secteur. Mais ça permettra de donner des normes et des chiffres audités, comparables, à tous les investisseurs qui leur permettront du coup de faire des choix éclairés. Or aujourd'hui, la finance est elle-même sous pression, comme l'a dit Rodolphe Durand, à la recherche de clients qui sont en amont d'eux, les investisseurs, les syndicats qui investissent, les grandes universités qui investissent, les grandes fondations, les fonds de retraite qui investissent, les compagnies d'assurance qui sont eux-mêmes sous pression de faire quelque chose, ou parfois qui ont la conscience, quand ce sont des individus, qu'il est important de bouger en face de cette transition.
Donc vous voyez le monde bouger.
Est sous pression aujourd'hui. Ouais. Les normes sont en train d'être fabriquées en Europe. Elles sont quasiment prêtes aux États-Unis. Il restera, j'espère, à les harmoniser et à les faire converger, parce que les entreprises et les investisseurs auront besoin de simplicité en ajoutant des normes complémentaires. C'est évidemment, ça va entraîner de la complexité. Mais le monde est en train de bouger. Et c'est ce qui me rend aujourd'hui, moi, optimiste sur cette transition.
Emmanuel Faber, optimiste et activiste. Il paraît que vous avez déjà retrouvé quand même du travail.
Ah bon?
Ah bon. J'en saurais pas plus ce matin. Emmanuel Faber, merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter.
Avec plaisir, merci de m'avoir reçu.
Les questions à Madame Vieux-Boulot, Christophe d'Argenteuil, c'est sur les pourboires défiscalisés. Cette proposition du gouvernement en début de semaine peut-elle mettre du beurre dans les épinards des serveurs? Et surtout, Sandrine Foulon, n'est-il pas plus efficace d'augmenter le fixe des serveurs?
Christophe, on pourrait reformuler autrement votre question. Les pourboires peuvent-ils inciter les serveurs à revenir travailler dans les restaurants? C'est en tout cas la piste évoquée par le chef de l'État qui veut défiscaliser et désocialiser les pourboires payés avec une carte bleue. Je rappelle qu'en théorie, Tous les pourboires sont soumis à cotisation et imposables, qu'ils soient versés par carte ou en pièces de monnaie. Mais évidemment, ceux qui sont dématérialisés sont plus facilement traçables et taxables. L'objectif, à la fois pour l'employeur et le salarié, est donc que ces sommes soient exonérées de cotisations sociales et non imposables. Compter sur les pourboires est une idée très à la mode. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, qui se désole de voir ses pubs désertés, va faire voter une loi pour que les tips payés par carte soient bien redistribués aux salariés et ne soient plus accaparés par le restaurateur. Le problème en France, en tout cas, est que personne ne sait combien perçoivent ses salariés en pourboire. Il n'existe aucune étude sur le sujet. On peut juste en déduire qu'il ne s'agit pas de sommes folles. Le gouvernement lui-même nous dit que défiscaliser les pourboires ne lui coûtera pas un centime, puisqu'aujourd'hui, les sommes versées en carte ne lui rapportent rien et que celles qui sont payées en liquide échappent à l'impôt.
Mais justement, Sandrine, le gouvernement table sur le fait que les consommateurs utiliseront davantage leur carte bancaire pour laisser un pourboire.
Oui, alors ça, on n'en sait rien non plus. Au printemps, pendant le confinement, une étude CSA pour le compte de Leaf, une plateforme de paiement mobile, expliquait que le manque de monnaie était un frein au pourboire, que contrairement aux idées reçues, les trois quarts des Français déclarent laisser quelque chose dans la coupelle, 2,80 € en moyenne, essentiellement au resto. Bon, pourquoi pas, faciliter les transactions c'est toujours utile, mais ça ne nous dit toujours pas combien les serveuses et les serveurs toucheront et s'ils seront bien destinataires de ces paiements en carte. Dépendre du bon vouloir des clients est par définition aléatoire. Aux États-Unis, une étude menée sur les courses Uber montre que 60% des passagers ne donne jamais, seul 1% donne toujours. Donc oui, Christophe, augmenter le fixe des salariés des bars et des restos, c'est une tradition qui a tendance à se perdre au profit des primes, du variable et même du pourboire. Mais ça reste le plus sûr moyen de fidéliser dans un secteur qui peine à recruter.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, merci à vous. Merci à Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi. À Céline Hilla, la réalisatrice. Et puis à la technique ce matin, Benjamin Troncin et François Saint-Jour nous ont accompagnés. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, retrouver des extraits sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end.